Alors c'est vrai que le bouquin, enfin l'étude hein, à France 2, comme dans les autres médias où j'ai pu aller, n'était pas spécialement focalisée sur les sources des journalistes, donc qui très souvent sont ceux qui façonnent les catégories de pensée qui vont ensuite circuler. Donc, c'est déjà quelque chose qui avait été assez travaillé, la question des sources. Donc il y a déjà des travaux comme ceux de Laurent Bonelli sur les renseignements généraux qui montrent comment la catégorie violence urbaine, elle a été forgée dans les services des renseignements généraux au tournant des années 90, à un moment donné où la place des services des renseignements généraux est un peu menacée parce qu'il y a eu toute une série de scandales qui a émaillé le fonctionnement de ce service. Et par ailleurs, voilà, on est dans l'idée que c'est l'effondrement du bloc de l'Est. Donc, surveiller les militants communistes d'extrême gauche, etc., ça n'a plus tellement de sens, c'est plus une menace. Donc, du coup, à quoi servent ces services en fait? Et à ce moment-là, il y a les dites émeutes à Vaux-en-Velin. Et donc, il y a une réorientation de ces services sur les questions des violences urbaines. Et donc, les renseignements généraux vont commencer à élaborer des grilles, des échelles de dangerosité des quartiers. Vous avez une commissaire des renseignements généraux qui va créer une échelle vraiment de mesure. Donc, c'est-à-dire que s'il y a, elle va compter le nombre de poubelles brûlées, de voitures brûlées, de bris de bus cassés. Donc, c'est un premier degré. Et puis après, on va monter jusqu'à l'émeute, etc. Donc voilà, donc ça, c'est Laurent Bonelli qui a bossé là-dessus. Mais après, vous avez des études de quelqu'un comme Sylvie Tissot qui a bossé sur la construction de la catégorie quartier sensible, donc plutôt du côté des ministères de politique de la ville, et qui montre comment, notamment avec certains sociologues, ils ont forgé cette catégorie quartier sensible. Et en fait, ce que montre très bien Laurent Bonelli, des chercheurs comme ça, c'est que ça va être des catégories qui sont particulièrement bien adaptées aux prêt-à-penser journalistiques, facilement mobilisables et qui permettent immédiatement de convoquer des images et ensuite de le traduire en reportage. Donc elles vont être donc effectivement ces sources journalistiques, elles ont beaucoup de poids. Et moi, je me suis plutôt situé du coup du côté des reporters, et on voit bien comment, par exemple, à l'époque, c'est Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur, les prises de position de Nicolas Sarkozy, au moins elles génèrent des discussions en conférence d'action sur est-ce qu'on traite ce sujet-là ou pas. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer que c'est une chose d'avoir une source qui prend une position et une source qui fait autorité. Alors, et s'il y a bien une source qui fait autorité, c'est bien le ministre de l'Intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment il y a des effets de surenchère autour de certains sujets qui sont liés à la concurrence qui existe au sein des rédactions. Et là, vous avez, face au rédacteur en chef qui a le monopole sur la définition des sujets et sur l'inscription simplement du sujet au sommaire du JT, vous avez des chefs de service qui sont en compétition entre eux pour essayer d'inscrire des sujets au sommaire du JT et donc à s'aligner sur les attentes des responsables du JT.
Cette question des catégories nous intéresse parce que c'est aussi comme ça que va être conçu après qu'on conçoit le monde. Et jusqu'aux années 80, on parlait tout le temps d'ouvriers et où, du jour au lendemain, dans les années 80, on se met à parler d'immigrés. Il y a une substitution comme ça du vocabulaire, d'un vocabulaire social, on va dire, un vocabulaire racial pour désigner, pour traiter deux questions qui sont toujours des questions sociales, quoi. Du coup, comment un directeur de JT, il choisit, il se dit, là, il y a telle catégorie, celle-là, en gros, elle a de la valeur, quoi. Elle va faire ce coup parce qu'elle n'existe pas encore, enfin, elle n'a pas encore tout son intérêt, quoi.
J'ai tendance à penser que les journalistes n'inventent pas grand-chose, en fait. Ils ont plutôt tendance à reprendre des discours qui circulent. Ils ne forgent pas tellement de catégories par eux-mêmes, en fait. Je pense qu'on pourrait apprendre à partir du moment où Daesh, par exemple, surgit. C'est plutôt, à mon avis, le Quai d'Orsay ou certains spécialistes des relations internationales, la diplomatie ou que sais-je, qui, à un moment donné, ont considéré que c'était un vocable qui, en tout cas, permet de soutenir les points de vue qu'ils souhaitent défendre. Mais après, ce que l'étude montre, c'est que vous avez des lieux où ces catégories, elles vont être mises en circulation. Et alors, il ne s'agit pas de tomber dans une représentation complotiste ou quoi, mais il se trouve qu'il y a des institutions qui se prêtent plus que d'autres encore à faire circuler ces catégories, notamment de l'ordre sur les questions de maintien de l'ordre. Et par exemple, un lieu comme l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, alors qu'il a changé plusieurs fois de nom, il ne s'appelle même plus comme ça maintenant parce qu'ils ont fusionné défense et sécurité intérieure, ou justice et sécurité intérieure, maintenant c'est ça, ils ont fusionné ces deux instituts. Donc ce sont des organisations qui dépendent au départ du ministère de l'Intérieur ou de la Justice, mais maintenant qui peuvent être directement rattachées à Matignon. Le propre d'une des fonctions principales de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, bon, c'est de produire une expertise sur la sécurité, mais c'est aussi de former des gens. Donc depuis, je crois, les années 90, ça date à peu près la même période que concept la notion de violences urbaines, vous avez donc tous les ans une centaine de personnes, par du temps qui sont des policiers, des gendarmes, mais aussi des pompiers, des vétérinaires, tous les métiers qui sont concernés par des enjeux de sécurité. Alors ça peut être sécurité alimentaire, sécurité animale, mais bien plus souvent du domaine du maintien de l'ordre plus classique, contre la sécurité, etc. Donc quand même surtout des policiers, des gendarmes, des magistrats, qui occupent déjà des positions des positions intermédiaires et plutôt dans la partie haute de l'organigramme, mais qui ne sont pas encore les grands responsables de la police, de la gendarmerie au niveau national, mais qui sont promis à le devenir. Et donc vous avez tous les ans une centaine de professionnels de ces différentes organisations qui viennent se former, je crois que c'est 4 jours par an pendant 10 mois, en continu, aux enjeux de la sécurité en France et à l'étranger. Et ce qui m'intéresse, c'est que parmi ces 100 auditeurs, on appelle ça des auditeurs, on garde quelques places, à peu près 3-4 places pour des journalistes et quelques places pour des responsables politiques. Et donc vous avez comme ça, aux côtés de ces futurs responsables de la sécurité intérieure, vous avez des journalistes et des responsables politiques qui viennent se familiariser à ces questions de sécurité. Alors, ils viennent pas forcément d'ailleurs pour apprendre des choses, en tout cas, c'est pas la motivation principale du côté des rédactions. Et en fait, donc, ils vous expliquent, les journalistes de France 2, qui vont là-dedans pour surtout faire du réseau. Et pour faire beaucoup de faits divers, vous avez besoin de beaucoup de relations avec la police. Et donc, on se dit, c'est le bon endroit pour nouer des relations de familiarité, de proximité avec les responsables policiers, et pour ensuite être les premiers avertis quand il y a une descente de démantèlement d'un réseau islamiste ou de trafic de stupes dans tel ou tel quartier. Et on vous assure que vous serez les seuls, donc vous avez l'exclusivité des images. Donc voilà, c'est pour avoir ce type de relations privilégiées qu'on va dans ces formations. Mais ce qui est intéressant par-dessus tout, c'est que les journalistes vous disent « Moi, au début, j'allais dans ces formations-là pour faire du réseau. Ça ne m'intéressait absolument pas. Moi, j'avais une représentation de la police de gens un peu neuneux, un peu bêtes, etc. Du front, en gros. Et en fait, pas du tout. C'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. La sécurité intérieure, c'est un vrai concept. Il y a des gens très intéressants qui réfléchissent à ça. Textuellement, ils vous expliquent ça. Il y a des énarques. Il y a des polytechniciens. On n'imagine pas, au ministère de l'Intérieur, le niveau intellectuel de ces gens-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça convertit les journalistes qui vont là-bas, à ces enjeux, à l'importance de ces enjeux, et surtout que ça va les doter d'un argumentaire qu'ils vont pouvoir ensuite, de retour dans la rédaction, utiliser pour justifier qu'on traite de tel ou tel sujet et défendre certaines grilles de lecture de l'actualité, notamment sur les questions de maintien de l'ordre, de surveillance des quartiers, des réseaux islamistes, etc.